ton cancer.
À l'occasion d'Octobre Rose, nous vous proposons une émission de prévention du cancer du sein. Bonjour Fabienne.
Bonjour Chloé.
Dis-moi comment tu vis ton cancer est une émission consacrée à la prévention du cancer du sein car le mois d'octobre est celui de la campagne Octobre Rose. Octobre Rose, c'est quoi ? C'est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin et à récolter des fonds pour la recherche ou pour les personnes malades. Le symbole de cet événement est le ruban rose et vous l'avez certainement déjà vu.
Il faut savoir que le cancer du sein touche une femme sur 8 et que c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Le taux se stabilise depuis 2 ans, mais néanmoins les femmes sont touchées, qu'elles soient pubères ou ménopausées. Enfin, le cancer du sein touche aussi les hommes dans une moindre mesure.
Pour parler du cancer du sein et de sa prévention, nous recevons aujourd'hui le docteur Joseph Bacard, chef de service de gynécologie obstétrique au centre hospitalier François-Quesnay de Mantes-la-Jolie et spécialiste des maladies et cancers du sein. Docteur Bacard, bonjour.
Bonjour Chloé, bonjour Fabienne. Je suis ravi de participer à cette initiative. C'est vrai, actuellement, on aime bien faire participer les patientes dans la prise en charge de cette maladie, car on sait que tout seul, on n'est pas suffisant pour traiter cette maladie.
Et justement, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis Joseph Bacard, le chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Mantes. C'est un service où il y a une maternité avec la chirurgie gynécologique. Et je suis intéressé surtout sur le problématique de cancer du sein, où je consacre la majorité de mon activité.
Très bien, justement, en parlant du sein, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne un sein ?
Donc d'abord, le sein, c'est une glande, comme toutes les glandes dans le corps humain. Il est boosté par des hormones sexuelles. C'est pour ça qu'il y a une différenciation entre l'homme et les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a une différenciation à partir de la puberté. Bien sûr, il a un rôle indispensable pour l'allaitement, mais aussi il a un rôle très important dans le regard de la femme sur elle-même. Pour ça, quand le sein est touché, on sait que c'est quelque chose qui touche au plein intimité des femmes.
Quels sont les signes qui doivent alerter les hommes et les femmes ?
Donc le signe, c'est principalement une rougeur ou une sensation d'une nodule ou une tuméfaction au niveau des seins. Parfois, quand on a ces signes-là, pas forcément on a un cancer. Mmh. Un abcès peut donner aussi la même signe, mais c'est très important, au moindre signe qui touche le sein, de réagir et ne pas rester tout seul face à cette nodule.
D'accord. Justement, quand on ne sait pas encore si c'est un cancer ou pas, mais de toute façon, comment se développent des cellules anormales ? Est-ce que vous pouvez nous donner des petites notions de base ?
Oui. Donc, effectivement, ce sont des cellules qui se divisent d'une façon anormale. Et c'est pour ça qu'il faut une grosseur, il faut un nodule. Et cette division, elle a une vitesse différente selon les grades et les types de cancers. Parfois, ils vont pousser qu'à l'intérieur d'une membrane, et ça s'appelle un carcinome intracanalaire ou lobulaire. Mais une fois qu'ils franchissent, ils cassent cette membrane basale, ils peuvent aller au-delà de leur endroit. C'est pour ça qu'on appelle ça un carcinome invasif. Donc, le fonctionnement est très complexe. Peut-être je ne veux pas pouvoir vous expliquer tout dans le même moment, mais ça, c'est le principe. C'est une division anormale qui arrive sur une collection des cellules.
Et à partir de quand parle-t-on de cancer, réellement ?
On parle de cancer au moment qu'on perd le contrôle sur les divisions cellulaires. Notre corps est très bien réglé, où il y a une croissance des cellules et il y a aussi une destruction des cellules. C'est deux phénomènes, ils sont en général, ils continuent à travailler d'une façon harmonieuse. Au moment où les cellules, ils perdent le contrôle, ils seront des cellules plus petites, mais très agressives, avec une capacité d'aller quitter l'organe pour aller ailleurs dans le corps. On peut appeler ça un cancer.
Très bien. Et pouvez-vous nous expliquer plus précisément quels sont les différents types de cancers du sein ?
Donc, la deuxième fois, on va pas rentrer dans des choses très complexes. Il y a plusieurs types de cancers du sein. On peut différencier des cancers qui répondent aux hormones et des cancers qui ne répondent pas aux hormones. On peut différencier des cancers qui sont génétiques, qui sont liés à des gènes et qu'on le trouve plutôt chez des femmes jeunes avec une histoire familiale, et des cancers qui sont pas génétiques et qui sont aléatoires, ils viennent d'une façon sporadique. On peut différencier des cancers qui touchent les deux seins, où ils ont des capacités d'aller dans les deux seins, et des cancers qui viennent dans un seul sein. Tout ça, c'est des critères. Je souhaite dire aussi, avec les cancers, on n'a pas toutes les réponses, mais chaque fois qu'on avance, on comprend que le cancer du sein, c'est pas une maladie, c'est plusieurs maladies. Et ça nous aide d'une façon très claire dans orienter notre thérapie, ce qu'avant, on ne le faisait pas. Avant, on traite tous les cancers du sein avec les mêmes moyens. C'est pour ça qu'il y avait des femmes qui recevaient des traitements très durs et peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de tous ces traitements durs. Actuellement, de plus en plus, on arrive à orienter, à rentrer plus dans le détail de tumeur et essayer d'orienter notre traitement. Et ça aide beaucoup, surtout pour les stades au début, les stades 1 ou stade 2, où on n'a pas besoin toute une armada thérapeutique, on peut aller vers une désescalade dans la prise en charge et avoir une prise en charge plus ciblée et plus harmonieuse.
Vous parlez de stade 1 et stade 2. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? Parce que je ne suis pas sûre que tous les auditeurs maîtrisent il y a combien de stades et qu'est-ce que ça veut dire.
Il y a 4 stades. Ils dépendent de 3 choses. De taille de tumeur, moins de 2 cm, plus que 3 cm. La deuxième chose, l'atteinte des ganglions axillaires. Donc ce qu'on appelle, est-ce que le curage est positif et négatif? Est-ce qu'il y a un ganglion atteint? Et la troisième chose, c'est les métastases à distance. Est-ce qu'il y a, des filtres dans le corps? Est-ce qu'il y a des métastases qui sont parties au poumon, qui sont parties au niveau hépatique, osseuse? Et avec ces 3 arguments, on va essayer de trouver le stade. On peut considérer que le pronostic des cancers stade 1 et stade 2, complètement différent, même notre maladie, que le cancer stade 3 ou stade 4.
Quand le doute est là, que faut-il faire?
Venir me voir, Fabienne. Non, je pense...
Vous êtes à Mantes-la-Jolie. Pour les personnes qui sont de Marseille, ça fait un peu loin.
Non, bien sûr, je pense... On a discuté avant, le grand danger, qu'on reste dans notre coin. Qu'on dit c'est rien du tout, c'est un petit bouton, c'est rien du tout, ou dire ah j'ai peur, ça touche mes seins, je veux attendre, ça va partir tout seul. Ça part jamais tout seul. C'est mieux d'aller voir un spécialiste ou un généraliste si vous n'avez pas de spécialiste ou quelqu'un qui connaît, une sage-femme. Il faut aller voir quelqu'un. Et la première chose à faire, c'est faire une échographie plus une mammographie pour voir est-ce qu'il y a quelque chose ou pas.
D'accord, donc ça veut dire qu'on peut demander à son médecin, je veux faire un examen complémentaire parce que j'ai quelque chose qui me chagrine là à ce niveau-là, donc je peux le faire.
Mais bien sûr, et toutes les orientations actuellement, même la dernière orientation médicale, on va faire une démocratie sanitaire, et je pense surtout ça, surtout quand vous avez sur votre corps un doute, il ne faut pas rester avec ce doute-là. Et si votre médecin vous dit « moi je ne fais rien », je vous encourage d'aller voir quelqu'un d'autre. Sans mettre la panique au bord, mais heureusement, plein de cas, ils sont rien du tout, mais ne pas rester avec des doutes ou des nodules dans le corps sans rien faire.
Donc, en dessous de 50 ans, on va voir le gynécologue. Et au-dessus de 50 ans, donc, on respecte le dépistage systématique mis en place par l'État. Et donc, il faut aller se faire dépister.
Je voudrais vraiment vous remercier pour ce message parce que hier, j'ai appris qu'on est toujours en France à 51% des femmes dépistées. Ça veut dire que...
De plus de 50 ans.
De plus de 50 ans. Donc, le dépistage systématique, c'est un dépistage qui est adressé aux femmes de 50 à 75 ans, tous les 2 ans. C'est gratuit, c'est une invitation, et ça vous aide un petit peu de connaître ce qui se passe dans votre corps. Effectivement, on a choisi à partir de 50 ans parce que 75% de cancers du sein sont chez des femmes dans cette tranche d'âge. Maintenant, il y a malheureusement des cancers qui se passent chez des femmes plus jeunes et qu'il ne faut pas les oublier. Et ces femmes aussi, ils sont appelées à être vues par leur médecin et ont moindre doute d'aller faire une mammographie. Mais le dépistage systématique, c'est en dehors de tout signe, de tout symptôme. Ça sera bien que toutes les femmes répondent à cette invitation. Et j'étais désolé hier de découvrir que jusqu'à maintenant, en France, il y a une femme sur deux presque, oui, qui fait ce dépistage.
À Alors maintenant, quand le diagnostic du cancer du sein est posé, qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, je veux dire, au niveau, que ce soit au niveau médical, mais aussi familial, personnel, professionnel. Ça fait beaucoup de questions en
oui,
même temps.
On va les prendre votre vaste programme. Donc, on va commencer étape par étape, je pense, et vous m'aider. Oui. Donc, d'abord, le diagnostic, c'est pas sur une image. La mammographie et l'écho mammaire ne vous donnent jamais un diagnostic. Mmh. Ils vont vous dire, ben voilà, madame, tout va bien. Ou madame, là, on a un petit doute. Le diagnostic est toujours histologique. Ça veut dire par une biopsie qui sera programmée par votre cancérologue ou votre gynécologue ou votre radiologue. Cette biopsie va nous donner la réalité de ce qui se passe. Et quand il y a une confirmation de cancer, la patiente est invitée à une consultation d'annonce. La consultation d'annonce, c'est on essaye, c'est pas toujours facile, mais on essaye de prendre plus de temps pour discuter la maladie, pour annoncer d'une façon apaisée. On le fait toujours en présence d'une troisième personne. A priori, c'est une infirmière, mais que la famille soit là, ce sera parfait. Mais en général, c'est une infirmière. Pourquoi cette infirmière? Parce que on sait, avec toutes les précautions qu'on le prend, on annonce une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui va marquer toutes les années à venir. On comprend que c'est douloureux. Et avec tout ce qu'on peut faire, on reste le vilain personne qui annonce une mauvaise chose. Donc cette infirmière qui est là, elle a un rôle de voir si cette information est passée, si c'est passé d'une façon claire, et les étapes qu'on va décrire, ça veut dire la stratégie thérapeutique, est bien compris et accepté par la patiente. Un médecin tout seul ne peut pas traiter un cancer. Si la patiente n'est pas partante, ben, je vous assure qu'on ne peut rien faire. Parce que le cancer du sein, ça ne se traite pas comme une appendicite. C'est pas on va enlever l'appendice et après on a guéri. Ça se traite dans le temps. Donc on a besoin d'être plusieurs. Et surtout, au centre, une patiente responsable qui participe. Et je pense que ça, c'est le sens de ce qu'on a dit au début, une démocratie sanitaire. Ça veut dire, si la patiente, elle se sent qu'elle est portée d'un bras à un bras, jetée d'un endroit à l'autre, ça c'est le pire. Le pire, parce que d'abord, elle va pas vivre bien tout ce qu'on fait, et un jour, le traitement, ça va se terminer, hop, elle va sentir qu'on l'a jetée. Donc, comment faire? C'est pour ça, peut-être, on va parler de tout ce qui entoure cette prise en charge, ce qui, à mon sens, est très important, de même importance que le traitement médical.
Justement, au niveau professionnel, est-ce que il y a des recommandations? Je veux dire, est-ce qu'on peut être traité? Est-ce qu'il faut s'arrêter de travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose de systématique? Est-ce qu'on peut continuer à travailler? Comment ça se passe?
Donc, moi, j'ai tendance, au moment que j'annonce un cancer, de proposer à la patiente de prendre un arrêt de travail. Parce que déjà, il faut digérer cette annonce. Mmh. Et y a des gens qui disent non, moi je veux pas, voilà, je respecte la liberté des gens. Mais je pense que ce sera bien de dire, voilà, Monsieur Bakar m'a dit quelque chose qui n'est pas agréable, je prends le temps, j'essaye de comprendre. Après, il y aura la prise en charge. La prise en charge, c'est jamais moins de 2 mois. Même si l'opération maintenant c'est très rapide, on sort le lendemain ou le jour même, il y a plusieurs étape thérapeutique à respecter. Donc, il y a effectivement une petite coupure. Ça sera de 2 mois, de 3 mois, c'est possible. Mais après, ce sont des femmes qui sont très belles, qui sont bien, qui peuvent reprendre toute leur place dans la société. Je suis très touché quand j'entends des témoignages des patientes qui me disent au boulot, c'est pas comme avant. Les gens, ils se méfient de moi, ils me disent j'ai eu un cancer du sein. C'est pas contagieux, le cancer du sein. Je répète de dire, je profite de ratio pour dire c'est pas contagieux. Ou le patron qui dit, comment on va faire? Elle va être arrêtée. Eh ben, je veux rassurer les patrons. Les patientes qui ont un cancer du sein, ils vont très 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 bien. Et ils vont rester des années et des années. Donc, c'est pas quelque chose. Donc, bien sûr, il faut un retour au boulot. La même chose dans la famille. Il faut cette dame... Après une période qui sera difficile, ça c'est sûr. Moi je suis sûr qu'elle peut faire toutes ses tâches familiales et maintenir en relation amoureuse, s'occuper des enfants, tout ça c'est faisable. Si la chirurgie a enlevé un morceau du sein ou un sein, ça ne veut dire pas qu'on a privé cette femme de la féminité. Et ça c'est un message très important. Peut-être ici c'est important de dire cette ancienne parole que j'ai entendue d'un grand patron, la relation entre les mots. Et les mots comme douleur. Je pense que ça, c'est très important pour nous tous de choisir nos mots quand on parle des douleurs, quand on parle des souffrances des gens, et essayer d'aider ces gens-là, qui se placent au maximum au centre de leur vie, parce qu'il n'y a que ça qui va le faire sortir de la maladie.
Et quels sont les traitements proposés ?
Donc, les traitements proposés, c'est 4 familles de traitements. La première, c'est la chirurgie. Il y a un endroit où les cellules, ils ont perdu le contrôle, ils font que leur tête. S'ils sont dans un endroit limité, il faut l'enlever. Ça, c'est la chirurgie. Donc, la chirurgie, il peut être simplement sur une incision de quelques centimètres, comme ça peut être enlever le sein, ça dépend de chacun. Mmh. Il y a aussi les ganglions. Vous savez qu'on a parlé des ganglions axillaires. Avant, il y a quelques années, quand j'ai commencé le métier, on enlevait les ganglions de tout le monde. Maintenant, on a une procédure qui s'appelle le ganglion sentinelle, où on va choisir un seul ganglion, on va l'analyser au moment de l'opération, et s'il n'est pas atteint, on épargne tous les autres ganglions. Donc ça, c'est une procédure qui est rentrée, qui est pratiquée un petit peu partout, et qui joue beaucoup sur le bien-être après l'opération. Ça, c'est la chirurgie.
La chirurgie, c'est systématique ou pas ?
La chirurgie, elle n'est pas systématique si la maladie est déjà partie ailleurs.
D'accord.
Ça veut dire, tant que la maladie il est en place, l'enlever chirurgicalement donne les meilleurs résultats. Une fois la maladie est partie ailleurs, au niveau hépatique, au niveau pulmonaire, ça, il faut d'abord commencer par chercher les cellules qui sont parties ailleurs, et on n'a que le traitement médical. La bonne nouvelle, je vais vous annoncer maintenant, même la chimiothérapie, avant on le faisait à tout le monde. On va comme si on voit une mouche et on prend une mitraillette pour tirer sur une mouche. Parce qu'on ne sait pas elle est où, on va tirer. Actuellement, on a des examens qui s'appellent Oncotype, qui s'appellent donc, plusieurs sortes d'examens, qu'on peut dire est-ce que cette tumeur nécessite vraiment de chimiothérapie ? Et si ça nécessite, quelle chimiothérapie ? Donc c'est une avancée très importante depuis qu'on l'a appliqué à l'hôpital de Mantes. Donc là, c'est malheureusement c'est pas partout en France, mais depuis qu'on a appliqué à l'hôpital de Mantes, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs patientes qui ont pu ne pas avoir la chimiothérapie, et je peux garantir à ces patientes le même pronostic qu'avec la chimiothérapie. Donc c'est phénoménal. Moi je trouve ça, c'est une avancée très importante. Après, dans la chimiothérapie, on va plus en plus faire des traitements ciblés. Donc, à la place, donner des traitements qui vont avoir un effet, parce que bien sûr, la chimiothérapie, malheureusement, elle a beaucoup d'effets secondaires sur tout le corps, on va aller essayer de plus en plus aller vers des traitements ciblés où on touche que la cellule. Il y a des choses qui sont commercialisées et il y a des choses qui sont en étude. Vous avez entendu que le prix Nobel est parti pour le traitement. Donc voilà, il n'est pas appliqué actuellement sur le cancer du sein. Mais moi, j'ai un grand espoir que demain, et on sera dans une génération où on peut cibler aussi plus les cellules du sein. La radiothérapie a pour rôle de stériliser le reste du sein. Parce qu'on dit, là on voit sur cet endroit du sein, on voit un nodule, on voit quelque chose, on va l'enlever. Mais est-ce qu'il y a des cellules cachées ailleurs dans le sein ? Parfois, ça peut échapper à nos moyens de contrôle. Donc la radiothérapie, il va stériliser, compléter la chirurgie. Et la dernière traitement, c'est l'hormonothérapie. C'est pour comme on a parlé au début, il y a des cancers qui répondent aux hormones. Ça veut dire que c'est les hormones qui nourrissent ces hormones et qui les font pousser. Donc nous, on va essayer d'annuler toute hormone dans le corps de la femme. Et il y a un traitement spécial qu'on utilise aussi et qui a son rôle principal pour diminuer le récidive.
Donc là, vous nous avez parlé de tous les traitements. Est-ce que vous pouvez nous donner, effectivement, vous avez parlé un petit peu des effets secondaires qui existent, notamment sur la chimiothérapie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur les effets secondaires de ces traitements ?
Là, j'ai besoin de vous. Et les médecins, ils ont besoin de tout le monde. Parce que effectivement, la chimiothérapie, il a des effets secondaires. De sensations d'un goût métallique, de vomissement, de perte des cheveux, de dégradation d'image de soi, de fatigue, de diminution d'immunité. Et je veux arrêter parce que sinon je veux faire peur à tout le monde. Tout le monde va quitter la radio. Non, mais c'est vrai. On essaye médicalement de faire des choses. Mais voilà, par exemple, l'exemple le plus simple sur les pertes des cheveux. peut-être la médecine toute seule ne va pas régler la situation. Peut-être on a besoin de soins esthétiques qui aident un petit peu, les perruques, donc des conseillères esthétiques pour le bien-être, l'image de soi, comment on peut aussi les massages. Parce qu'effectivement, ce que nous, même la chirurgie, là, on parle de chimiothérapie, mais la chirurgie laisse des restes de séquelles. Ça fait mal, des traces. Et on sait que les massages aident beaucoup. Donc, on a besoin, je pense, on va parler sur ça peut-être plus, mais on a besoin que ce soit vraiment une prise en charge globale. Là, une fois qu'on utilise une arme comme la chimiothérapie qui va fatiguer le corps entier, on a besoin aussi des soins qui prennent en charge le corps entier. Et là, médical et autres, je pense, il faut réfléchir. On essaye de donner un traitement pour les vomissements, on essaye de donner, mais ça ne va pas suffire. Parce que tout l'être est touché.
Donc vous nous dites effectivement que la médecine a besoin, on va dire, d'alternatives, de complémentarité, de médecine complémentaire pour justement accompagner ces traitements, voilà, qui peuvent être difficiles, oui, avoir des effets qui sont pas évidents. Et donc Fabienne, concernant les alternatives possibles pour pallier aux effets secondaires, qu'est-ce que tu nous conseilles, puisque je rappelle que tu es naturopathe?
Alors effectivement, la naturopathie peut aider les personnes à affronter, on va dire, les effets secondaires, à soulager les effets secondaires. Donc, il y a effectivement plusieurs alternatives possibles. Il y a de la phytothérapie. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à votre naturopathe, à valider avec l'équipe médicale ce que le naturopathe vous donnera comme orientation. Après, vous pouvez aller vers d'autres méthodes que la phytothérapie. C'est l'équilibre alimentaire. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Bacard en dehors de l'émission, mais il nous parlait du jeûne. Du jeûne, c'est effectivement une méthode où on allège ce qu'on met dans l'assiette. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange rien, ça veut dire qu'on allège ce qu'il y a dans l'assiette pour laisser la place à la chimiothérapie pour faire son effet et afin de l'optimiser. Car quand on digère, eh ben on ne peut pas faire trois choses à la fois, on a du mal à gérer la chimiothérapie à côté. Donc on allège l'assiette et la chimiothérapie est nettement plus optimisée. Donc on reprend progressivement des habitudes alimentaires saines et puis jusqu'à la prochaine injection de la chimiothérapie. Pendant la radiothérapie, il n'y a pas forcément d'équilibre alimentaire à avoir, mais néanmoins, on peut garder à l'esprit que si on est porté sur le sucre, il vaut mieux calmer cette attirance au sucre par un moyen comme un autre, parce qu'il faut savoir que le sucre est un facteur aggravant de la maladie. Après, si on a des insomnies, on peut aller sur des méthodes comme la sophrologie ou l'hypnose. Je pense à l'hypnose aussi si on fume. Il faut savoir que le tabac est également un critère qui aggrave la situation. Donc, c'est le moment ou jamais de se poser la question à savoir si on arrête ou pas le tabac. Donc, l'hypnose peut vous aider, l'auriculothérapie peut vous aider, la naturopathie peut vous aider aussi puisqu'il va falloir aider à la désintoxication du corps. Après, si on prend du poids, malgré le fait qu'on allège l'assiette ou qu'on améliore les habitudes alimentaires au quotidien, eh ben on peut revenir revoir le naturopathe pour mettre en place un véritable équilibrage alimentaire, se mettre au sport, faire une activité physique régulière, alors pas besoin d'aller s'inscrire au club de boxe du coin, mais néanmoins de faire une activité physique régulière, ça peut être de la marche, aller respirer dehors, sortir le chien si on en a un, aller promener les enfants en bicyclette, il y a les massages quand c'est possible, parce qu'il faut savoir aussi que le cancer touche le système lymphatique, et tous les massages ne sont pas non plus possibles quand on s'attaque au système lymphatique, puisque lors des massages, on touche au système lymphatique.
Oui, donc en fait, tout ce que tu nous décris, effectivement, demande quand même une interaction, je veux dire, avec l'équipe médicale qui suit à chaque fois pour savoir, bon, bah voilà, si on... Enfin, il faut que ce soit validé des deux côtés.
Ah, tout à fait. Puis en plus, c'est au dernier moment, c'est quand même la patiente qui choisit ou pas de suivre telle ou telle recommandation.
Très bien. Donc, pour aller plus loin, Fabienne, tu peux nous donner quelques références bibliographiques ?
Oui, ben, je me suis permise d'aller chercher quelques livres intéressants et quelques blogs intéressants aussi. Si vous êtes à la recherche de multiples informations diverses et variées, je vous recommande la lecture d'un livre très facile à lire, « Comment vivre son cancer au quotidien » de Caroline Pauffichet-Bournouf, édition de La Martinière, qui est riche d'informations, de références associatives, de références de blogs, de références encore bibliographiques autres que celui-ci. Et franchement, n'hésitez pas, c'est un document très facile à lire. Pour les personnes touchées par le cancer du sein, moi j'ai découvert un blog qui s'appelle lescahiersdecarcinome.com de Mélanie Lafrenière. Et toutes les deux ont été touchées donc par un cancer agressif où elles ont été amenées à subir les effets de la chimiothérapie et le reste. Pour rompre l'isolement, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'osent pas parler de leur maladie ou qui n'osent pas, comme disait Monsieur Bacard, aller vers le dépistage systématique, ben n'hésitez pas, vous avez un réseau qui est fait pour vous, que vous soyez malade ou pas, hein, vous aurez donc des réponses à vos questions. Et donc ça s'appelle, c'est l'association Patients en Réseau qui a développé cette application qui s'appelle Mon Cancer du Sein. C'est une application qui est téléchargeable sur smartphone et il existe un site internet où on peut donc se connecter, voilà.
Eh bien, pour finir, nous remercions tout d'abord le docteur Bacard d'avoir été présent avec nous.
Merci pour vous, c'est important qu'on parle, parce que c'est comme ça qu'on va essayer d'être ensemble pour essayer de sortir de cette maladie qui touche beaucoup de monde.
Merci docteur Bacard. Donc pour finir, vous pouvez retrouver plus de références sur le site de Marmite FM. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sur le site, donc marmitefm.canalblog.com. Merci à tous. Merci Fabienne.
Merci Chloé. Dis-moi, comment tu vis ton cancer ?
À l'occasion d'Octobre Rose, nous vous proposons une émission de prévention du cancer du sein.